France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un livre qui ne se présente ni chez les anciens ni chez les modernes. Mais pour être un livre, pour devenir un livre, il faut passer par l'écriture du manuscrit. Et un manuscrit peut se perdre, que l'histoire s'en mêle ou non. Et ce manuscrit, perdu, peut ne pas l'être. En fait, qu'importe. L'auteur, l'écrivain, lui, croit qu'il a disparu à jamais, et il écrira d'autres œuvres, d'autres aventures philosophiques, sexuelles et littéraires. Sade, les 120 journées de Sodome à la radio. Ce fut dans La Liberté coupable, une émission diffusée de jour, mais à une heure tardive. C'était le 13 octobre 1962 sur France 3 National.
Il est maintenant 23h05. Vous allez pouvoir écouter La Liberté coupable. Nous tenons à préciser que cette émission s'adresse à des auditeurs avertis. RTF, France 3 National présente La Liberté coupable. La Liberté coupable, première série, Le Marquis de Sade par Gilbert Lely. Ce soir, deuxième émission, Les 120 journées de Sodome. Avec Jean Marchat, sociétaire de la Comédie Française, René Clermont, Gilbert Lely, Martine Sarcey, Claudine Coster, Anne Pérez et Renaud Marie dans le rôle du Marquis de Sade. Illustration musicale empruntée à Mozart. Réalisation Alain Barreau.
C'est le 22 octobre 1785... que le marquis de Sade entreprend la mise au net de ses premiers brouillons des 120 journées de Sodome. Conscient de la puissante originalité de son travail, non moins que des dangers de saisie auxquels un semblable manuscrit est chaque jour exposé, il a décidé, sans en attendre l'achèvement, d'en établir une copie soignée sous la forme la plus facilement dissimulable. D'abord en 20 soirées, de 7 à 10 heures, le prisonnier de la Bastille couvre d'une écriture microscopique l'un des côtés d'un rouleau de papier mince de 12,10 mètres, composé de petites feuilles de 12 centimètres de largeur collées bout à bout. Puis, sans désemparer, il s'attaque à la seconde face de cette bande et, le 28 novembre, termine son manuscrit provisoire, tel qu'après 125 années, il nous est parvenu. Précaution inutile pour lui-même, sinon pour la postérité. Après le pillage de la Bastille, ni le brouillon ni la copie ne reviendront jamais entre ses mains. Ajoutons que la perte d'un tel ouvrage n'est sans doute pas la moindre cause des larmes de sang qu'il a versées en mai 1790.
Je m'étais beaucoup occupé pendant ma détention. Imaginez-vous que j'avais 15 volumes à faire imprimer. En sortant de là, à peine me reste-t-il un quart de ces manuscrits. Madame de Sade, par une insouciance impardonnable, a laissé perdre les uns, a fait prendre les autres, et voilà 13 années de perdu. Les trois quarts de ces ouvrages étaient restés dans ma chambre à la Bastille. On m'en transféra le 4 juillet à Charenton. Le 14, la Bastille se prend, se renverse. Et mes manuscrits, 600 volumes, pour 2000 livres de meubles, de portraits précieux. Tout est lacéré, brûlé, emporté, pillé, sans qu'il me soit possible d'en retrouver un fétu. Et tout cela par la pure négligence de Madame de Sade. Elle avait eu 10 jours à elle pour retirer mes effets. Elle ne pouvait douter que la Bastille, que l'on farcissait pendant ces 10 jours d'armes, de poudre, de soldats, ne se préparât soit à l'attaque, soit à la défense. Pourquoi donc ne se pressait-elle pas d'enlever mes effets, mes manuscrits? mes manuscrits sur la perte desquels je verse des larmes de sang. On retrouve des lits, des tables, des commodes, mais on ne retrouve pas des idées. Non, mon ami, non. Je ne vous peindrai jamais mon désespoir de cette perte. Elle est irréparable pour moi.
Cependant, le frêle rouleau est trouvé par Arnoux de Saint-Maximin dans la chambre même où le marquis avait été détenu. Il devient la possession de la famille de Villeneuve-Trans qui en assumera la sauvegarde pendant 3 générations. Vendu au commencement de ce siècle à un amateur d'Outre-Rhin, l'autographe inédit est publié en 1904 par le psychiatre berlinois Ivan Bloch sous le pseudonyme d'Eugène Duren. Si la grande importance scientifique des 120 journées de Sodome pour les médecins, juristes, anthropologues, n'échappe nullement à l'éditeur qui signale à plusieurs reprises dans ses notes les surprenantes analogies des cas cités tant par Sade que par Krafft Ebing, la version établie par ses soins est pratiquement inutilisable à cause des milliers de fautes qui dénaturent le texte du marquis. Après la mort d'Ivan Bloch, le manuscrit demeure en Allemagne jusqu'au mois de janvier 1929, où Maurice Hain, mandaté par le vicomte Charles de Noailles, se rend à Berlin pour l'acquérir. C'est de 1931 à 1935 que paraissent les 3 volumes de l'admirable édition chef-d'œuvre de notre regretté ami. En raison de son exactitude absolue, elle doit être considérée comme la véritable originale des 120 journées de Sodome. Rappelons le cadre et les acteurs de la terrible fiction.
Vers la fin du règne de Louis le Grand, 4 psychopathes, âgés de 45 à 60 ans, et dont la fortune immense est le produit du meurtre et de la concussion, le duc de Blangis, l'évêque son frère, le président de Curval et le financier d'Ursay, s'enferment pour une orgie sans nom dans un château perdu de la Forêt Noire, avec 42 objets de luxure soumis à leur pouvoir absolu. Les épouses, très jeunes et merveilleusement belles, Constance, fille de Durset et femme de Blangis, mariée pour la 4e fois et qui a tué ses autres épouses, Adélaïde, fille de Curval et femme de Durset, Julie, fille de Blangis, née de son premier lit et femme de Curval, Aline, fille adultérine de l'évêque et de la 2e épouse de Blangis. Un sérail de 8 jeunes garçons et de 8 jeunes filles ravis à leurs parents et dont les attraits sont au-dessus de toute expression, 8 fututeurs sodomites, choisis pour leur dimension monstrueuse, 4 duennes sexagénaires, estropillées et rongées de chancre et réservoirs de tous les crimes, 6 cuisinières et servantes, enfin 4 proxénètes historiennes, blanchies sous le harnois, la Duclos, la Chanville, la Martenne et la Trosse des Granges. D'un 1er novembre à un 28 février, ces dernières, se succédant de mois en mois, feront, à raison de 150 chacune, le récit de 600 perversions que les maîtres du château, au comble de l'hérétisme, mettront souvent en pratique à l'instant même. Au cours de multiples orgies qui se prolongeront 20 jours au-delà du 28 février, dans un crescendo d'horreur, 30 victimes appartenant à toutes les catégories que nous venons d'énumérer, sauf à celles des historiennes, périront dans d'épouvantables tourments. 12 personnes seulement s'en retourneront à Paris avec le duc et ses 3 complices.
L'ordonnance des 120 journées de Sodome est visiblement inspirée du Décaméron et du recueil de Marguerite de Navarre. L'ouvrage se compose, avec une ample introduction, de 4 parties, rédigées sous forme de journal et qui correspondent respectivement aux mois de novembre, décembre, janvier et février et aux passions dites simples, doubles, criminelle et meurtrière, dont la narration s'entremêle aux événements scandaleux du château. Seules l'introduction et la première partie sont développées. Les 3 autres parties se présentent à l'état de plan détaillé et annoté. Observons que dans celle-ci, le rapide énoncé des faits psychopathologiques, soigneusement numérotés et dont la succession méthodique apparaît immédiatement, contribue pour une grande part à donner aux 120 journées ce caractère de traité médical que ne démentent d'aucune sorte les déclarations préliminaires de l'auteur. Si l'ouvrage de Sade, ainsi qu'on le verra plus loin, doit être considéré en effet du double point de vue scientifique et littéraire, il faut noter dans un troisième domaine que les rares passages philosophiques des 120 journées de Sodome ne traduisent encore que succinctement les théories morales et métaphysiques obsessionnelles que Donatien Alphonse François, tout du long de sa carrière d'écrivain, ne cessera d'enrichir et de subtiliser, et dont Justine ou les malheurs de la vertu, écrit en 1788, nous offriront les premiers développements. L'ébauche de ces théories figure principalement dans une tirade du duc de Blangis. Il hait la vertu. Dès sa jeunesse, il en a reconnu le vide et le néant. Le vice seul, selon lui, peut faire éprouver à l'homme cette vibration morale et physique, source des plus délicates voluptés.
Ferme dans mes principes, parce que je m'en suis formé de sûr dès mes plus jeunes ans, j'agis toujours conséquemment à eux. Ils m'ont fait connaître le vide et le néant de la vertu. Je la hais, et l'on ne me verra jamais revenir à elle. Mes principes m'ont convaincu que le vice était seul fait pour faire éprouver à l'homme cette vibration morale et physique, source des plus délicieuses voluptés. Je m'y livre. Je me suis mis de bonne heure au-dessus des chimères de la religion, parfaitement convaincu que l'existence du Créateur est une absurdité révoltante que les enfants ne croient même plus. Je n'ai nullement besoin de contraindre mes penchants dans la vue de lui plaire. C'est de la nature que je les ai reçus, ces penchants, et je l'irriterai en y résistant. Si elle me les a donnés mauvais, c'est qu'ils devenaient ainsi nécessaires à ses vues. Je ne suis dans ses mains qu'une machine qu'elle meut à son gré, et il n'est pas un de mes crimes qui ne la serve. Plus elle m'en conseille, plus elle en a besoin. Je serais un sot de lui résister. Je n'ai donc contre moi que les lois, mais je les brave. Mon or et mon crédit me mettent au-dessus de ces fléaux vulgaires qui ne doivent frapper que le peuple.
Quant au mécanisme même de la volupté sadique, tel qu'il peut se déduire, moins de l'explication partielle et bizarrement physiologique contenue dans un passage des 120 journées que des raisonnements du marquis au cours de ses ouvrages ultérieurs, il nous semble se ramener brièvement à l'interrogation suivante. Si nous puisons avant tout notre jouissance dans la commotion ressentie par l'objet que nous possédons, quel moteur aussi puissant que celui de la douleur sera capable de porter cette commotion et conséquemment notre jouissance à son intensité la plus haute? C'est de toute évidence à son entreprise des 120 journées de Sodome que songe le marquis de Sade lorsqu'il écrit dans Aline et Valcourt:
je voudrais que les hommes eussent chez eux, au lieu de ces meubles de fantaisie qui ne produisent pas une seule idée, je voudrais, dis-je, qu'ils eussent une espèce d'arbre en relief, sur chaque branche duquel serait écrit le nom d'un vice. En observant de commencer par le plus mince travers, pour arriver ainsi par gradation jusqu'au crime né de l'oubli des premiers devoirs. Un tel tableau moral n'aurait-il pas son utilité, et ne vaudrait-il pas bien un Teniers ou un Rubens?
Mais l'exorde des 120 journées avait déjà traduit les intentions didactiques de l'auteur en même temps qu'elle exprimait l'inquiétante nouveauté de son entreprise.
C'est maintenant, ami lecteur, qu'il faut disposer ton cœur et ton esprit au récit le plus impur qui ait jamais été fait depuis que le monde existe, le pareil livre ne se rencontrant ni chez les anciens ni chez les modernes. Imagine-toi que toute jouissance honnête ou prescrite par cette bête dont tu parles sans cesse, sans la connaître et que tu appelles nature, que ces jouissances, dis-je, seront expressément exclues de ce recueil et que, lorsque tu les rencontreras par aventure, ce ne sera jamais qu'autant qu'elles seront accompagnées de quelque crime ou colorées de quelque infamie. Sans doute, beaucoup de tous les écarts que tu vas voir dépeints te déplairont, on le sait. Mais il s'en trouvera quelques-uns qui t'échaufferont singulièrement, et voilà tout ce qu'il nous faut. Si nous n'avions pas tout dit, tout analysé, comment voudrais-tu que nous eussions pu deviner ce qui te convient? C'est à toi à le prendre et à laisser le reste. Un autre en fera autant et petit à petit, tout aura trouvé sa place. C'est ici l'histoire d'un magnifique repas où 600 plats divers s'offrent à ton appétit. Ce nombre prodigieux étend les bornes de ton choix. Et, ravi de cette augmentation de facultés, tu ne t'avises pas de gronder l'amphitryon qui te régale. Fais de même ici. Choisis. Et laisse le reste sans déclamer contre ce reste uniquement parce qu'il n'a pas le talent de te plaire. Songe qu'il plaira à d'autres et sois philosophe. Quant à la diversité, sois assuré qu'elle est exacte. Étudie bien celle des passions qui te paraît ressembler sans nulle différence à une autre et tu verras que cette différence existe et, quelque faible qu'elle soit, qu'elle a seule précisément ce raffinement, ce tact qui distingue et caractérise le genre de libertinage dont il est ici question.
Mais Sade ne laisse pas de dépeindre avec la gravité du moraliste le cheminement terrible du mal dans l'âme de ses héros.
Une fois que l'homme s'est dégradé, qu'il s'est avili par des excès, il a fait prendre à son âme une tournure vicieuse dont rien ne peut plus la sortir. Dans tout autre cas, la honte servirait de contrepoids au vice où son esprit lui conseillerait de se livrer. Mais ici, cela ne se peut plus. C'est le premier sentiment qu'il a éteint. C'est le premier qu'il a banni loin de lui. Et de l'état où l'on est, en ne rougissant plus à celui d'aimer tout ce qui fait rougir, il n'y a exactement qu'un pas. Tout ce qui affectait désagréablement, trouvant une âme différemment préparée, se métamorphose alors en plaisir. Et de ce moment-là, tout ce qui rappelle le nouvel état que l'on adopte ne peut plus être que voluptueux.
Mais quel chemin il faut avoir fait dans le vice pour en être là?
J'en conviens, mais cette route se fait imperceptiblement. On ne la suit que sur des fleurs. Un excès amène l'autre. L'imagination, toujours insatiable, nous amène bientôt au dernier terme. Et comme elle n'a parcouru sa carrière qu'en endurcissant le cœur, dès qu'elle a touché le but, ce cœur, qui contenait jadis quelques vertus, n'en connaît plus une seule. Accoutumé à des choses plus vives, il secoue promptement les premières impressions molles et sans douceur qu'il avait enivrées jusqu'alors. Et comme il sent bien que l'infamie et le déshonneur vont être la suite de ces nouveaux mouvements, pour n'avoir pas à les redouter, il commence à se familiariser avec eux. Il ne les a pas plutôt caressés qu'il les aime, parce qu'ils tiennent à la nature de ces nouvelles conquêtes. Et il ne change plus.
Voilà donc ce qui rend la correction si difficile.
Dites, impossible, mon ami. Et comment les punitions infligées à celui que vous voulez corriger réussiraient-elles à le convertir, puisqu'à cela près de quelques privations, l'état d'avilissement qui caractérise celui où vous le placez en le punissant lui plaît, l'amuse, le délecte, et qu'il jouit au-dedans de lui d'avoir été assez loin pour mériter d'être ainsi traité.
Oh, quelle énigme que l'homme!
En perdant les 120 journées de Sodome, écrit Maurice Haine, le marquis de Sade égare son chef-d'œuvre et le sait.
Le reste de sa vie littéraire sera dominé par le souci de remédier aux conséquences de cet accident. Il tentera donc, avec une persévérance et une insistance douloureuse, d'atteindre encore à cette maîtrise qu'il connut au suprême degré de sa solitude et de sa misanthropie.
Et le même auteur qu'il faut toujours citer parce qu'il serait vain d'entrer en lutte avec son admirable concision, s'exprime ailleurs de la sorte.
C'est un document d'une singulière valeur, en même temps que le premier essai positif, mis à part celui des confesseurs, en vue du classement des anomalies sexuelles. L'homme à qui revient l'initiative de leur observation méthodique et de leur description systématique, un siècle avant Krafft Ebing et Freud, mérite bien le lustre que le monde savant donne à son nom en imposant celui de sadisme à la plus grave de ses psychopathies.
Mais si dans les 120 journées de Sodome, cette histoire naturelle des paresthésies, Sade a fourni le témoignage de son génie précurseur, si nombre de ses observations psychosexuelles, indépendamment de leur haute valeur littéraire, doivent être tenues pour les chefs-d'œuvre du genre, il n'en faut pas moins remarquer qu'une erreur dominante vient compromettre en mains endroits la valeur didactique d'un tel ouvrage. Nous voulons dire la place monstrueusement exagérée que l'auteur y réserve à l'aberration coprolanique portée à ses derniers excès. En effet, sur les 600 cas anormaux narrés par les historiennes, sans compter la fiction proprement dite où cette pratique répugnante abonde, plus de la moitié offre l'image d'une ingestion d'excréments autonome ou associée à une autre passion. Or, si la coprolanie visuelle, olfactive ou tactile, qui paraît relever à la fois du fétichisme et du sadomasochisme, est une anomalie relativement fréquente, sa sœur fanatique, la coprophagie, ne peut être rangée qu'au nombre des perversions sexuelles les moins répandues. Mentionnée une seule fois dans les 900 pages un quarto du recueil de Krafft Ebing, elle ressortit avant tout à l'aliénation mentale, domaine indépendant du genre d'examen que s'est proposé le marquis de Sade. Ainsi, dans les 120 journées de Sodome, la vraisemblance est souvent heurtée par la suprématie gratuite d'un égarement hideux entre tous, et que d'autres nuances essentiellement érotologiques eussent remplacé avec avantage. Outre la monotonie et le dégoût qui résultent d'un pareil abus, certains cas des plus saisissants, comme celui de ce président nécrophile qui ne veut avoir affaire qu'à des femmes qui vont être exécutées, sont en quelque manière déchus de leur attribution universelle à cause de l'élément coprophagique que Sade a cru devoir greffer sur la perversion principale. Cependant, les 120 journées de Sodome, quelques réserves que nous ayons dû formuler, contiennent les pages les plus admirables que le marquis de Sade ait jamais écrites. Le grain, la respiration, la volute des phrases semblent s'y assortir davantage au style de sa correspondance, véritable ruban magnétique où le son de sa voix est empreint, qu'à celui de ses autres ouvrages, d'une facture moins constamment subjective. L'introduction des 120 journées de Sodome, où se déploient toutes les ressources de son art, sous la forme la plus neuve et la plus spontanée, est sans doute le chef-d'œuvre de Donatien Alphonse François. Devons-nous rappeler le portrait de Blangis, qui brille d'un si noir éclat, parmi la nudité splendide des épouses, l'infernale beauté de son sermon aux êtres faibles et enchaînés, et cette galerie de proxénètes et de duègnes, de bardaches et de fillettes, qui ne le cèdent nullement à l'album des Caprices de Francisco Goya. Voici le terrible sermon du duc de Blangis aux femmes qui sont à sa merci.
Êtres faibles et enchaînés, uniquement destinés à nos plaisirs, vous ne vous êtes pas flattés, j'espère, que cet empire aussi ridicule qu'absolu que l'on vous laisse dans le monde vous serait accordé dans ces lieux. Mille fois plus soumises que le seraient des esclaves, vous ne devez vous attendre qu'à l'humiliation. Et l'obéissance doit être la seule vertu dont je vous conseille de faire usage. C'est la seule qui convienne à l'état où vous êtes. Ne vous avisez pas surtout de faire aucun fond sur vos charmes. Trop blasés sur de tels pièges, vous devez bien imaginer que ce ne serait pas avec nous que ces amorces-là pourraient réussir. Souvenez-vous sans cesse que nous nous servirons de vous toutes, mais que pas une seule ne doit se flatter de pouvoir seulement nous inspirer le sentiment de la pitié. Indignés contre les autels qui ont pu nous arracher quelques grains d'encens, notre fierté et notre libertinage les brisent dès que l'illusion a satisfait nos sens. Et le mépris, presque toujours suivi de la haine, remplace à l'instant dans nous le prestige de l'imagination. Qu'offrirez-vous d'ailleurs que nous ne sachions par cœur? Qu'offrirez-vous que nous ne foulions aux pieds, souvent même à l'instant du délire? Il est inutile de vous le cacher, votre service sera rude. Il sera pénible et rigoureux. Et les moindres fautes seront punies de peines corporelles et afflictives. Je dois donc vous recommander de l'exactitude, de la soumission et une abnégation totale de vous-même pour n'écouter que nos désirs. Qu'ils fassent vos uniques lois. Volez au-devant d'eux, prévenez-les et faites-les naître. Non pas que vous ayez beaucoup à gagner à cette conduite, mais seulement parce que vous auriez beaucoup à perdre en ne l'observant pas. Examinez votre situation, ce que vous êtes, ce que nous sommes, et que ces réflexions vous fassent frémir. Vous voilà hors de France, au fond d'une forêt inhabitable, au-delà de montagnes escarpées, dont les passages ont été rompus aussitôt après que vous les avez eus franchis. Vous êtes enfermé dans une citadelle impénétrable. Qui que ce soit ne vous y sait. Vous êtes soustraite à vos amis, à vos parents, vous êtes déjà morte au monde. Et ce n'est plus que pour nos plaisirs que vous respirez. Et quels sont les êtres à qui vous voilà maintenant subordonnés? Des scélérats profonds et reconnus, qui n'ont de Dieu que leur lubricité, de loi que leur dépravation, de frein que leur débauche, des roués sans Dieu, sans principe, sans religion, dont le moins criminel est souillé de plus d'infamie que vous ne pourriez les nombrer, et aux yeux de qui la vie d'une femme, que dis-je d'une femme, de toutes celles qui habitent la surface du globe, est aussi indifférente que la destruction d'une mouche. Il sera peu d'excès, sans doute, où nous ne nous portions. Qu'aucun ne vous répugne. Prêtez-vous sans sourciller et opposez à tous la patience, la soumission et le courage. Si, malheureusement, quelqu'une d'entre vous succombe à l'intempérie de nos passions, qu'elle prenne bravement son parti. Nous ne sommes pas dans ce monde pour toujours exister, et ce qui peut arriver de plus heureux à une femme, c'est de mourir jeune. On vous a lu des règlements, fort sages, et très propre et à votre sûreté et à nos plaisirs. Écoutez-les aveuglément et attendez-vous à tout de notre part si vous nous irritez par une mauvaise conduite. Quelques-unes d'entre vous avez avec nous des liens, je le sais, qui vous enorgueillissent peut-être et desquels vous espérez de l'indulgence. Vous seriez dans une grande erreur si vous y comptiez. Nul lien n'est sacré aux yeux de gens tels que nous. Et plus ils vous paraîtront tels, plus leur rupture chatouillera la perversité de nos âmes. Fille, épouse, c'est donc à vous que je m'adresse en ce moment. Ne vous attendez à aucune prérogative de notre part. Nous vous avertissons que vous serez traitée même avec plus de rigueur que les autres. Et cela précisément pour vous faire voir combien sont méprisables à nos yeux les liens dont vous nous croyez peut-être enchaînés. Au reste, ne vous attendez pas que nous spécifierons toujours les ordres que nous voudrons vous faire exécuter. Un geste, un coup d'œil, souvent un simple sentiment interne de notre part vous le signifiera, et vous serez aussi puni de ne les avoir pas devinés et prévenus que si après vous avoir été notifiés, ils eussent éprouvé une désobéissance de votre part. C'est à vous de démêler nos mouvements, nos regards, nos gestes, d'en démêler l'expression, et surtout de ne pas vous tromper à nos désirs. Car je suppose, par exemple, que ce désir fut de voir une partie de votre corps et que vous vinssiez maladroitement à offrir l'autre, vous sentez à quel point une telle méprise dérangerait notre imagination et tout ce qu'on risque à refroidir la tête d'un libertin. En un mot, frémissez, devinez, obéissez, prévenez. Et avec cela, si vous n'êtes pas au moins très fortuné, peut-être ne serez-vous pas tout à fait malheureuse. D'ailleurs, point d'intrigue entre vous, nulle liaison. Point de cette imbécile amitié de fille qui, en amollissant d'un côté le cœur, le rend de l'autre et plus revêche et moins disposé à la seule et simple humiliation où nous vous destinons. Songez que ce n'est pas du tout comme des créatures humaines que nous vous regardons. mais uniquement comme des animaux que l'on nourrit pour le service qu'on en espère et qu'on écrase de coups quand ils se refusent à ce service. Vous avez vu à quel point on vous défend tout ce qui peut avoir l'air d'un acte de religion quelconque. Je vous préviens qu'il y aura peu de crimes plus sévèrement punis que celui-là. On ne sait que trop qu'il est encore parmi vous quelques imbéciles qui ne peuvent pas prendre sur elles d'abjurer l'idée de cet infâme Dieu et d'en abhorrer la religion. Celles-là seront soigneusement examinées, je ne vous le cache pas. Et il n'y aura point d'extrémité où l'on ne se porte envers elles si malheureusement on les prend sur le fait. Qu'elles se persuadent, ces sottes créatures, qu'elles se convainquent donc que l'existence de Dieu est une folie, qui n'a pas sur toute la terre 20 sectateurs aujourd'hui, et que la religion qu'il invoque n'est qu'une fable, ridiculement inventée par des fourbes dont l'intérêt à nous tromper n'est que trop visible à présent. En un mot, décidez-vous-même, s'il y avait un Dieu et que ce Dieu eût de la puissance, permettrait-il que la vertu qui l'honore et dont vous faites profession fût sacrifiée comme elle va l'être au vice et au libertinage? Permettrait-il ce Dieu puissant qu'une faible créature comme moi, qui ne serait vis-à-vis de lui que ce qu'est un ciron aux yeux de l'éléphant, permettrait-il, dis-je, que cette faible créature le bafouât, le défiât, le bravât et l'offensât, comme je fais à plaisir à chaque instant de la journée?
Quant à la première partie des 120 journées de Sodome, s'il fallait encore un grand nom pour déterminer l'excellence des tableaux de mœurs qu'elle contient, nous en appellerions au savant coloris, au naturel si raffiné du satyricon de Pétrone. Et comme le marquis est habile à faire parler ses personnages selon leur caractère et leurs conditions, témoin l'épisode où la Duclos raconte ses premiers pas dans le libertinage. Le discours que lui tient sa sœur sur ce qu'on gagne à se soumettre aux dépravations des hommes est d'un réalisme supérieur, par quoi Rétive de la Bretonne est vaincue sur son propre terrain.
Il y avait 3 jours que ma mère n'avait paru à la maison, lorsque son mari, inquiet bien plutôt de ses effets et de son argent que de la créature, s'avisa d'entrer dans sa chambre, où ils avaient coutume de serrer ce qu'ils avaient de plus précieux. Mais quel fut son étonnement lorsqu'au lieu de ce qu'il cherchait, il ne trouva qu'un billet de ma mère qui lui disait de prendre son parti sur la perte qu'il faisait, parce qu'étant décidée à se séparer de lui pour jamais et n'ayant point d'argent, il fallait bien qu'elle prît tout ce qu'elle emportait. Qu'au reste, il ne devait s'en prendre qu'à lui et à ses mauvais traitements si elle le quittait, et qu'elle lui laissait 2 filles qui valaient bien ce qu'elle emportait. Mais le bonhomme était loin de trouver que l'un valut l'autre, et le congé qu'il nous donna gracieusement en nous priant de ne pas même coucher à la maison fut la preuve certaine qu'il n'en comptait pas comme ma mère. Assez peu affligé d'un compliment qui nous donnait à ma sœur et à moi pleine liberté de nous livrer à l'aise au petit genre de vie qui commençait si bien à nous plaire, nous ne songeâmes qu'à emporter nos petits effets et à prendre aussi vite congé du cher beau-père qu'il lui avait plu de nous le donner. Nous nous retirâmes sur le champ dans une petite chambre aux environs, ma sœur et moi, en attendant que nous eussions pris notre parti sur notre destinée. Là, nos premiers raisonnements tombèrent sur le sort de notre mère. Nous ne doutâmes pas d'un moment qu'elle ne fût au couvent, décidée à vivre secrètement chez quelque père ou à s'en faire entretenir dans quelque coin des environs. Et nous nous en tenions sans trop de soucis à cette opinion lorsqu'un frère du couvent vint nous apporter un billet qui fit changer nos conjectures. Ce billet disait en substance que ce qu'on avait de mieux à nous conseiller était de venir aussitôt qu'il ferait nuit au couvent, chez le père gardien même qui écrivait le billet, qu'il nous attendrait dans l'église jusqu'à 10 heures du soir, et qu'il nous mènerait dans l'endroit où était notre mère, dont il nous ferait partager avec plaisir le bonheur actuel et la tranquillité. Il nous exhortait vivement à n'y pas manquer, et surtout à cacher nos démarches avec le plus grand soin, parce qu'il était essentiel que notre beau-père ne sût rien de tout ce qu'on faisait, et pour ma mère, et pour nous. Ma sœur, qui pour lors avait atteint sa 15e année et qui par conséquent avait et plus d'esprit et plus de raison que moi qui n'en avais que 13, après avoir congédié le porteur de billets et répondu qu'elle ferait ses réflexions là-dessus, ne put s'empêcher de s'étonner de toutes ces manœuvres.
François, n'y allons pas. Il y a quelque chose là-dessous. Si cette proposition était franche, pourquoi ma mère, ou n'aurait-elle pas joint un billet à celui-ci, ou ne l'aurait-elle pas au moins signé? Et avec qui serait-elle au couvent, ma mère? Le père Adrien, son meilleur ami, n'y est plus depuis 3 ans. À peu près depuis cette époque, elle n'y va plus qu'en passant, et il n'y a plus aucune intrigue réglée. Par quel hasard aurait-elle été choisir cette retraite? Le père gardien n'est ni n'a jamais été son amant. Je sais qu'elle l'a amusé 2 ou 3 fois, mais ce n'est pas un homme à se prendre pour une femme, en raison de cela seul, car il n'en est pas de plus inconstant et même de plus brutal envers les femmes, une fois que son caprice est passé. Ainsi, d'où vient aurait-il pris tant d'intérêt à notre mère? Il y a quelque chose là-dessous, te dis-je. Je n'ai jamais aimé ce vieux gardien. Il est méchant, il est dur, il est brutal. Il m'a tiré une fois dans sa chambre où il était avec 3 autres, et d'après ce qui m'y est arrivé, j'ai bien juré depuis ne n'y pas remettre les pieds. Si tu m'en crois, laissons là tous ces coquins moines. Il n'est plus temps de te le cacher, François, j'ai une connaissance. Et j'ose dire une bonne amie. On l'appelle Madame Guérin. Il y a 2 ans que je la fréquente, elle n'a pas été depuis ce temps-là 1 semaine sans me faire une bonne partie. Mais non pas des parties de 12 seules comme celles que nous faisons au couvent. Il n'y en a pas une dont je n'ai rapporté 3 livres. Tiens, en voilà la preuve. Il y a 10 louis dans cette bourse. Tu vois que j'ai de quoi vivre. Eh bien, si tu veux suivre mon avis, fais comme moi. La Guérin te recevra, j'en suis sûre. Elle t'a vu il y a 8 jours en me venant chercher pour une partie. Et elle m'a chargée de t'en proposer aussi. Et que, quelque jeune que tu fusses, elle trouverait toujours à te placer. Fais comme moi, te dis-je, et nous serons bientôt au-dessus de nos affaires. Du reste, c'est tout ce que je peux te dire. Car, excepté cette nuit où je paierai ta dépense, ne compte plus sur moi, ma petite. Chacun pour soi dans ce monde. J'ai gagné cela avec mon corps et mes doigts. Fais-en autant. Et si la pudeur te tient, va-t'en au diable. Et surtout, ne viens pas me chercher. Car après ce que je te dis là, je te verrai tirer la langue 2 pieds de long que je ne te donnerai pas un verre d'eau. Quant à ma mère, bien loin d'être fâchée de son sort, tel qu'il puisse être, je te proteste que je m'en réjouis. Et que le seul vœu que je fais est que la putain soit si loin que je ne la revoie de ma vie. Je sais combien elle m'a gênée dans mon métier. Et tous les beaux conseils qu'elle me donnait pendant que la garce en faisait 3 fois pis. Mamie, que le diable l'emporte et surtout ne la ramène pas. Voilà tout ce que je lui souhaite.
N'ayant pas à vous dire le vrai, ni le cœur plus tendre, ni l'âme mieux placée que ma sœur, je partageais de bien bonne foi toutes les invectives dont elle accabla cette excellente mère. Et, remerciant ma sœur de la connaissance qu'elle me procurait, je lui promis et de la suivre chez cette femme, et, une fois qu'elle m'aurait adoptée, de cesser de lui être à charge. À l'égard du refus d'aller au couvent, je l'adoptais comme elle. Si effectivement elle est heureuse, tant mieux pour elle, dis-je. En ce cas, nous pouvons l'être de même de notre côté sans avoir besoin d'aller partager son sort. Et si c'est un piège qu'on nous tend, il est très nécessaire de l'éviter. Sur cela, ma sœur m'embrassa.
Allons, je vois à présent que tu es une bonne fille. Va, va, sois sûre que nous ferons fortune. Je suis jolie, et toi aussi. Nous gagnerons ce que nous voudrons, mamie. Mais il ne faut pas s'attacher. Souviens-t'en aujourd'hui. Il faut être putain, mon enfant, putain dans l'âme et dans le cœur. Pour moi, je la suis, vois-tu? À présent qu'il n'y a ni confession, ni prêtre, ni conseil, ni représentation qui pût me retirer du vice. J'irais, sacre Dieu, montrer mon cul sur les bornes avec autant de tranquillité que je boirais un verre de vin. Imite-moi, François. On gagne tout sur les hommes avec de la complaisance. Bon, le métier est un peu dur dans les commencements, mais on s'y fait. Autant d'hommes, autant de goûts. D'abord, il faut y attendre. L'un veut une chose, l'autre en veut une autre, mais qu'importe. On est là pour obéir, on se soumet. C'est bientôt passé. Et l'argent reste.
J'étais confondue, je l'avoue, d'entendre des propos aussi déréglés dans la bouche d'une fille si jeune et qui m'avait toujours paru si décente. Mais comme mon cœur en partageait l'esprit, je lui laissais bientôt connaître que j'étais non seulement disposée à l'imiter dans tout, mais même à faire encore pis qu'elle si cela était nécessaire. Enchantée de moi, elle m'embrassa de nouveau. Et comme il commençait à se faire tard, nous envoyâmes chercher une poularde et du bon vin, nous soupâmes et couchâmes ensemble, décidée à aller dès le lendemain chez la Guérin et la prier de nous recevoir au nombre de ses pensionnaires.
Cette grandeur luciférienne qui a trouvé de hautes expressions en littérature et que M. André Rousseau n'aperçoit pas chez le marquis de Sade, dépourvu selon lui de génie poétique, cette grandeur luciférienne nous paraît au contraire revêtir dans ses ouvrages une fascination exceptionnelle. Même nous avons tiré de la plupart d'entre eux la matière d'un véritable recueil de poèmes en prose. Isolé des contextes raisonneurs, le merveilleux tragique y resplendit tel qu'en un autre Maldoror. De nombreuses pages en sont précisément empruntées aux 120 journées de Sodome. Ainsi, cet avatar convulsif de l'idéalisme humain, la scène de nécrophilie sadique arrangée par le duc de Florville.
Un autre exigeait sans doute une cérémonie plus bizarre. C'était le duc de Florville. J'eus ordre de conduire chez lui une des plus belles femmes que je pourrais trouver. Un valet de chambre nous reçut et nous entrâmes à l'hôtel par une porte détournée. Arrangeons cette belle créature, me dit le valet, comme il convient qu'elle le soit pour que monsieur le duc puisse s'en amuser. Suivez-moi. Par des détours et des corridors aussi sombres qu'immenses, nous parvenons enfin à un appartement lugubre, seulement éclairé de 6 cierges placés à terre autour d'un matelas de satin noir. Toute la chambre était tendue de deuil et nous fûmes effrayés en entrant. « Rassurez-vous, nous dit notre guide, il ne vous arrivera pas le moindre mal. Mais prêtez-vous à tout, dit-il à la jeune fille, et exécutez bien sur tout ce que je vais vous prescrire. » Il fit mettre la fille toute nue, défit sa coiffure et laissa pendre ses cheveux qu'elle avait superbes. Ensuite, il l'étendit sur le matelas au milieu des cierges, lui enjoignit de contrefaire la morte et surtout de prendre sur elle pendant toute la scène de ne bouger ni de ne respirer que le moins qu'elle pourrait. Car si malheureusement mon maître, qui va se figurer que vous êtes réellement morte, s'aperçoit de la feinte, il sortira furieux et vous ne serez sûrement pas payé. Dès qu'il eut placé la demoiselle sur le matelas dans l'attitude d'un cadavre, il fit prendre à sa bouche et à ses yeux les impressions de la douleur, laissa flotter les cheveux sur le sein nu, plaça près d'elle un poignard et lui barbouilla le côté du cœur d'une plaie large comme la main avec du sang de poulet. « Surtout n'ayez aucune crainte, dit-il encore à la jeune fille, vous n'avez rien à dire, rien à faire. Il ne s'agit que d'être immobile et de ne prendre votre haleine que dans les moments où vous le verrez moins près de vous. Retirons-nous maintenant, me dit le valet, venez madame, afin que vous ne soyez pas inquiète de votre demoiselle, je vais vous placer dans un endroit d'où vous pourrez entendre et observer toute la scène. » Nous sortons, laissant la fille d'abord très émue, mais néanmoins un peu plus rassurée par les propos du valet de chambre. Il me mène dans un cabinet voisin de l'appartement où le mystère allait se célébrer. Et au travers d'une cloison mal jointe sur laquelle la tenture noire était appliquée, je pus tout entendre. Observer me devenait encore plus aisé, car cette tenture n'était que du crêpe. Je distinguais tous les objets au travers, comme si j'eusse été dans l'appartement même. Le valet tire le cordon d'une sonnette. C'était le signal. Et quelques minutes après, nous vîmes entrer un grand homme, sec et maigre, d'environ 60 ans. Il était entièrement nu sous une robe de chambre flottante de taffetas des Indes. Il s'arrête dès en entrant. Il est bon de vous dire ici que nos observations étaient une surprise, car le duc, qui se croyait absolument seul, était très éloigné de croire qu'on le regardât. « Oh, le beau cadavre !» s'écria-t-il aussitôt. « La belle morte !»« Oh, mon Dieu !» dit-il en voyant le sang et le poignard. « Ça vient d'être assassiné dans l'instant. » « Ah, sacre Dieu, comme j'aurais voulu lui voir donner le coup !» Et lui maniant le ventre, était-elle grosse? Non, malheureusement. Et continuant de manier, les belles chairs, elles sont encore chaudes. Le beau sein. Et alors il se coucha sur elle et lui baisa la bouche avec une fureur incroyable. Elle bave encore, dit-il, que j'aime cette salive. Il était impossible de mieux jouer son rôle que ne le faisait cette fille. Elle ne bougea pas plus qu'une souche, et tant que le duc l'approcha, elle ne souffla nullement. Enfin, il la saisit, et la retournant sur le ventre, Ah, sacre Dieu, les belles fesses. Et alors il les baisa. Voilà, sur ma parole, s'écria-t-il, tout enthousiasmé, un des plus superbes cadavres que j'aie vus de ma vie. Ah, combien il est heureux, celui qui a privé cette belle fille du jour, et que de plaisir il a dû avoir. Il était couché près d'elle, la serrait, il criait comme un diable. Oh, comme je voudrais l'avoir tuée. Telle fut la fin de l'opération. Le libertin se releva et disparut. Il était temps que nous vinssions relever notre moribonde, elle n'en pouvait plus. La contrainte, l'effroi, tout avait absorbé ses sens, et elle était prête à jouer d'après nature le personnage qu'elle venait de si bien contrefaire. Nous partîmes avec 4 louis que nous remit le valet, qui, comme vous l'imaginez bien, nous volait au moins la moitié.
Pour être involontaire, la poésie de Sade, diamant de son délire et de sa solitude, ne s'en impose pas moins à la sensibilité moderne avec une singulière évidence. Il faut citer ici Jean Cassou, un des premiers admirateurs du génie poétique de l'auteur de Juliette.
Sade nous fait entendre la symphonie de nos passions originelles. Chacune de celles-ci, chacune des têtes de l'hydre dont nous descendons, chante son chant. Rêve son rêve, avec une netteté et une précision extraordinaires.
Au reste, l'éternel captif ne s'est-il pas dépeint sans le savoir, dans l'attitude même de la rêverie poétique, quelque paradoxale qu'en fût chez lui l'objet?
Toutes ces choses-là, et leurs ressouvenirs, sont toujours ce que j'appelle à mon secours quand je veux m'étourdir sur ma situation. Elles savent si bien adoucir mes malheurs lorsque j'y laisse errer mon imagination.
Toutes ces choses-là, en effet, le comble de ravissement.
Deux demoiselles charmantes furent violées et massacrées dans les bras de leur mère. On joignit à cela une infinité d'autres horreurs. Il la fait courir dans un jardin avec un fouet de poste dont elle est seulement menacée. Il faut qu'elle court jusqu'à ce qu'elle tombe de lassitude. C'est l'instant où il se jette sur elle.
Constance Adélaïde, plus grande que nature, que de barbare frénésie, vos corps de reine Callipyge ont enduré avant la mort. Si le prisonnier Sade ne plaît pas, aussi n'a-t-il point voulu plaire. Le seul glaive dont il dispose dans sa ténébreuse demeure, pour se venger d'un monde qui le retient captif, la subversion des valeurs morales et des normes sensitives, pourquoi son désespoir se refuserait-il à le plonger trop avant dans le cœur de l'homme? Mais la prédication esthétique du mal exclut l'accomplissement de celui-ci. C'est le vertueux Robespierre qui tue. Bourreau imaginaire de 1000 jeunes femmes, ce n'est pas ça, d'à la belle voix. Derrière cette persienne de sang, a écrit René Char, brûle le cri d'une force qui se détruira elle seule, parce qu'elle a horreur de la force, sa sœur subjective et stérile. Or, sur les proies délicieuses, ressuscitées à l'aube de la 121e journée, le langage étendra sa merci.
RTF France 3 National vient de présenter La Liberté Coupable. Ce soir, deuxième émission consacrée par Gilbert Lely au Marquis de Sade. Les 120 journées de Sodome avec Jean Marchat, sociétaire de la Comédie Française, René Clermont, Gilbert Lely, Martine Sarcey, Claudine Coster, Anne Pérez et Renaud Marie dans le rôle du marquis de Sade. Illustration musicale empruntée à Mozart. Réalisation Alain Barou.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 13 octobre 1962. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique des Nuits de France Culture.